Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Voici un livre écrit à quatre mains par un père et son fils. Publié aujourd'hui, peut-être à titre posthume pour le premier, et pour le second presque par hasard, suite à une découverte dans une vieille armoire basque. L'un écrivit dans les années 50 un texte demeuré inédit et l'autre publie aujourd'hui le texte de son père pour le sauver de l'oubli. Il le fait de manière originale en proposant une sorte de dialogue décalé dans le temps par le biais de souvenirs et de réflexions en écho au texte de son père. Un habile travail de découpe et de collage produit un entrelacs de leurs textes respectifs qui porte à merveille celui du père. Mariage du récit de fiction au récit de filiation, un geste d'amour filial et de reconnaissance proposé par Jean-Yves Lorichès dans son ouvrage intitulé « Le destin d'un poète » publié en 2025 aux éditions Le Temps qu'il fait. Bonjour Jean-Yves Lorichès.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir à Parole d'auteur. Je salue nos fidèles auditeurs. Première question, Jean-Yves Lorichès, est-ce que l'écriture dans la famille, c'est un atavisme féroce ?
Bien, il faut croire que oui. Oui, je le sais depuis longtemps, puisque mon père m'avait déjà fait lire des poèmes qu'il avait écrits dans les années 30, alors qu'il était étudiant à Paris. Donc ça, il me les a fait lire très tôt, quand j'ai commencé à m'intéresser à la littérature, donc adolescent, puis étudiant, et aussi à écrire moi-même des poèmes que je lui avais fait lire. Donc, il m'avait fait lire des poèmes. Voilà, en revanche, on y reviendra, mais ce roman dont il est question, je ne le connaissais pas. Mais oui, il y a, dans ma famille, la littérature a toujours beaucoup compté, la lecture, les grands auteurs. Et donc, mon père, effectivement, a voulu être écrivain, mais l'a été, même s'il n'a pas, effectivement, publié.
De toute manière, je pense que l'on peut conclure que votre père a été, vis-à-vis de vous, un grand influenceur quant à la littérature, puisque vous êtes devenu professeur agrégé de littérature française et que vous avez notamment enseigné à Toulouse Jean Jaurès, que vous avez effectué une thèse de doctorat intitulée Giono et Stendhal, intertextualité et création romanesque. Donc, les préceptes peut-être du père, les recommandations n'ont pas été vaines. Alors, en termes de bibliographie, vous avez produit des essais de critique littéraire, essentiellement sur Giono, Claude Simon, mais il y en a d'autres. Vous avez notamment, j'allais dire, commis un ouvrage qui s'appelle « La bataille des odeurs » et j'ai retenu ce titre-là parce qu'effectivement, dans le roman, il y a beaucoup de sensations olfactives que vous faites remonter. Et cet ouvrage, « La bataille des odeurs », le titre complet, c'est « L'espace olfactif des romans de Claude Simon ». Donc, c'est un domaine qui vous tient particulièrement à cœur.
Oui, je crois que j'ai toujours aimé les écrivains qui, comme le disait Claude Simon lui-même d'ailleurs, chez lesquels il y a beaucoup à sentir, donc à voir, à sentir au sens olfactif, à entendre, mais particulièrement la dimension de l'odorat, dont on sait depuis Proust à quel point elle est liée effectivement à la mémoire, et elle suscite la mémoire. Donc oui, les écrivains sur lesquels j'ai travaillé, Claude Simon, mais aussi bien sûr Giono, grand écrivain du monde sensible, sont des écrivains de la sensation et qui savent transformer ou transmuter ces sensations en poésie, en fait.
Alors, vous avez écrit sur ces auteurs, sur leurs œuvres. Ça a même été des sujets de recherche pour vous.
Oui, voilà. Ben, étant effectivement, ayant fait une thèse, puis ayant été universitaire, ayant enseigné la littérature à l'université, fait des recherches, écrit des articles. Bon, il y a toute une partie de ma production qui est une production critique, d'analyse, mais qui m'a aussi beaucoup apporté pour approfondir ces lectures qui au départ étaient des lectures d'affinité. On travaille généralement sur les auteurs qu'on aime, hein, on n'est pas masochiste, donc voilà, et en même temps je vois bien comment ces auteurs ont nourri aussi ensuite l'écriture, même si pendant un certain nombre d'années quand même aussi peut-être ils ont un peu écrasé la possibilité même d'écrire, parce que quand on travaille sur des très grands comme ça, on se sent quand même très petit. Et puis à un certain moment on se dit pourquoi pas réessayer, donc c'est ce que j'ai fini par faire.
Alors au-delà des écrits, des essais littéraires et des sujets de recherche, vous avez écrit, vous êtes passé au romanesque, vous avez écrit donc des romans. Une première série de romans, c'est qui a plus trait, comment dire, à la mémoire de trois générations, souvent composé à partir d'archives familiales, de souvenirs personnels. Une suite centrée donc sur la mémoire de trois générations qui traversent le XXe siècle, avec notamment Place Monge, Le Pas de l'Ombre, Les Brisés et Le Destin d'un Poète. Alors ça, c'est l'aspect mémoire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur.
Oui, une fois de plus, hein, c'est vrai que chez les auteurs, Claude Simon peut-être particulièrement, hein, c'est un grand écrivain de la mémoire, et de la mémoire familiale et de la mémoire personnelle, mais à titre plus personnel, j'ai quand même été dans une famille dans laquelle, surtout du côté de mon père peut-être particulièrement, mais ma mère aussi, mais on a fait vivre pour moi quand même un peu particulièrement l'histoire familiale, surtout du côté de mon père, parce qu'il y avait une maison en Corrèze, donc dans laquelle il y avait des souvenirs, il y avait des tableaux, des portraits photographiques, mais présentés dans des cadres comme des tableaux, comme on faisait au début du XXe siècle, donc de mon grand-père tué à la guerre de 14, de ma grand-mère qui est morte de tuberculose quelques années plus tard. Donc mon père avait été orphelin. Tout ça, mon père l'a fait en parler. Et donc dans cette vieille maison, il y avait une charge de mémoire énorme dans les lieux, dans les meubles, dans les objets, dans les images, les archives. Et alors pendant longtemps, ça a été pour moi simplement une imprégnation. Et puis à un certain moment, au moment de commencer ou de recommencer à écrire vraiment, c'est vrai que cette dimension-là m'a beaucoup porté, m'a beaucoup aidé, parce que c'était un matériau que j'avais vraiment complètement intégré et qui en même temps aussi me donnait une direction, me donnait de la matière pour écrire, peut-être une matière qui m'a permis d'aller au bout d'un premier livre, ce qui était plus difficile avec de la fiction pure, où j'avais, dans les essais que j'avais fait à l'époque, tendance à un certain moment à être bloqué, à ne pas savoir ce qui allait se passer après, hein, ce qui est toujours le problème quand on écrit une fiction. Et là, il y avait ce matériau très riche et très émouvant pour moi, qui a beaucoup compté, d'où ce premier roman, Place Monge, qui effectivement fait revivre ces deux personnages, donc ce grand-père et cette grand-mère, Jean et Gabriel, qui sont morts jeunes, mais qui ont fini par exister pour moi presque comme des personnages de romans, et en même temps qui ont vraiment existé.
Alors vous avez également écrit des fictions qui ne sont pas directement liées à des souvenirs familiaux, qui sont des fictions en forme de quête, dans lesquelles toujours les lieux, le passé, les images jouent un rôle déterminant. C'est un petit peu une démarche parallèle ou une prolongation par rapport à la mémoire, à la recherche de la mémoire des trois générations.
Je crois que c'est un peu les deux, c'est-à-dire que c'est parallèle dans la mesure où ça c'est parallèle, ça alterne un peu aussi les deux entreprises, mais c'est beaucoup plus lié qu'on ne pourrait le croire. C'est pour ça que j'aime bien que finalement tout cela s'appelle roman quand même, et non pas autobiographie d'un côté, roman de l'autre, parce que ces ouvrages effectivement de fiction, hein, qui sont donc fondés sur l'invention de personnages et d'histoires, bien sûr comme tout roman, toute fiction, ils sont de toute façon nourris de lieux que je connais, mais enfin voilà, les personnages, les histoires sont bien fictifs, et en même temps je vois bien à quel point tous ces livres, dans tous ces livres je réinvestis finalement tout de même ce goût à la fois des sensations dont vous parliez, ce goût des lieux, ce goût aussi de la mémoire. Souvent les personnages de ces fictions sont en quête de quelque chose dans le passé qui reste secret ou mystérieux, et ils essaient de l'élucider décidé. Donc, quelque part, ils font dans le domaine de la fiction ce que moi, j'ai pu faire dans le domaine de la réalité familiale. Hein. Donc, les deux se rejoignent, mais avec, là, pour le coup, le plaisir quand même et la liberté d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Et je tiens aussi beaucoup à cette dimension romanesque.
Alors cette recherche de l'invention, de la créativité, vous l'avez développée également de manière originale, puisque vous avez publié dans la collection le roman d'un chef-d'œuvre aux ateliers Henri Dougier. Alors je précise pour nos auditeurs, mais nous avons déjà reçu quelqu'un ici qui avait écrit sur les raboteurs de Caillebotte, oui. Hein, Dominique Ozel.
Toulouse.
Voilà. Et donc, vous avez participé à cette collection dans deux ouvrages, Les chasseurs dans la neige et Les noces rouges selon Bruegel. Le premier est paru en 2018, le second en 2022. Et là, vous faites preuve de créativité puisque vous imaginez la genèse de deux tableaux célèbres de Pietre, Bruegel l'Ancien. C'était une démarche qui vous a plu, qui était un peu décalée par rapport à ce que vous aviez fait ou...
Oui, alors c'est parti en fait, pour être encore plus précis, le premier des livres, Les chasseurs dans la neige, est antérieur à la collection, à la création de la collection Le roman d'un chef-d'œuvre, un petit peu antérieur. Et c'est par ce livre-là que j'ai connu donc Henri Dougier, un grand éditeur, fondateur des éditions Autrement, de la revue Autrement, etc., qui a créé cette petite maison atelier Henri Dougier et cette collection. Donc, mais Les chasseurs dans la neige est un peu antérieur. C'est moi qui lui ai envoyé ce texte et ce texte lui a plu. Je pense que ça a joué un rôle certainement parmi d'autres, sans doute, sources, mais dans son désir de créer une collection autour, justement, d'un tableau. Mais la différence dans Les chasseurs dans la neige, j'avais vraiment toute liberté, si vous voulez, d'inventer un personnage sortant du tableau, de rêver complètement sur ces chasseurs dans la neige, tout en me documentant quand même, bien sûr, sur Bruegel. Dans Les noces rouges selon Bruegel, qui eux sont dans la collection Le roman d'un chef-d'œuvre. Henri Dougier m'a proposé de faire un autre Bruegel pour cette collection. Et là, il y a peut-être davantage de documentation. On est un peu plus près de la réalité sociologique, historique surtout, de l'époque. On est en pleine occupation des Flandres par les Espagnols, donc au XVIe siècle. Mais en même temps, j'avais quand même une large part d'invention, puisque en fait, on sait assez peu de choses sur Bruegel. Donc pour un romancier, c'est pain béni. Je pense qu'on en sait beaucoup plus sur Caillebotte, hein, certainement, et sur bien d'autres. Et j'ai pu, par exemple, me livrer au plaisir d'inventer des témoignages de personnages historiques qui ont vraiment existé, des mécènes de Bruegel ou aussi des membres de sa famille ou d'autres artistes contemporains avec qui il a été lié, qui ont donc existé, mais que j'ai fait parler, comme si je les convoquais en quelque sorte, non pas à la barre, c'est pas un procès, mais comme témoin de la vie et de la personnalité de Bruegel. Donc j'ai beaucoup aimé faire aussi ce travail, peut-être plus documenté, parce que c'est un peu l'idée de cette collection, hein, le roman d'un chef-d'œuvre, c'est quand même, il faut qu'il y ait une solide documentation, mais en même temps, une liberté aussi de romancier.
Oui, et l'aspect plausible, finalement,
voilà,
c'est très important.
Voilà,
alors, un autre domaine dans lequel vous êtes lancé, c'est tout ce que l'on pourrait qualifier par la mémoire du monde rural. Mmh. Et vous avez commis un ouvrage qui s'appelle « Les réalités premières », je crois, en 2023. Mmh. Et là, vous évoquez la mémoire du monde rural, d'un monde rural très particulier et très spécifique, puisque c'est le monde rural corrézien.
Oui, alors c'est un petit livre publié aux éditions de La Guépine, hein, un merveilleux petit éditeur qui fait un très beau travail, en même temps avec des jolis livres en petit format, des textes courts. Et ça m'allait bien que ce soit un texte court. En fait, j'avais écrit dans le cadre de mon travail universitaire, un peu avant, un essai qui s'intitule « Ligne de terre, écrire le monde rural aujourd'hui », qui est un essai donc sur un ensemble d'auteurs contemporains ayant écrit sur ces questions. Je pense à Jean-Loup Trassard, je pense à Pierre Michon, Richard Millet, ou encore Marie-Hélène Lafont et d'autres auteurs, Pierre Bouys, d'autres encore. Et donc j'avais fait toute une sorte de panorama de la production actuelle sur le monde rural, qui se développe beaucoup. Et en même temps, j'étais bien conscient que si je m'intéressais à ce monde, c'est parce que j'en avais moi-même des souvenirs très, 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 très proches, en tout cas très proches en moi, lointains dans le temps, mais restés très proches, de vacances, donc de longues vacances en Corrèze dans mon enfance et ma jeunesse, et en particulier d'avoir participé chez des voisins de mes parents à tous les travaux des champs dans ce pays de polyculture dans lequel on peut aussi bien voilà, s'occuper des vaches qu'aller gauler les noix, que couper le maïs, etc. etc. Et tout ça, j'avais le sentiment que c'est parce que j'avais vécu cela que je m'intéressais ensuite littérairement aussi à ces questions. Et en même temps, évidemment, dans un essai de critique littéraire, je n'avais pas à faire vraiment intervenir mes propres souvenirs. Donc il me restait un peu ce regret. Et je me suis dit, ben, je vais les écrire maintenant que l'essai est publié. Je vais faire une sorte de post-scriptum personnel dans un texte qui n'avait pas à être très long, parce que malgré tout, ce sont des souvenirs qui restent liés à une période précise de mon enfance, mon adolescence, mais qui était en même temps très, très dense pour moi. Et ça donne ce petit livre, effectivement, sur cette famille de paysans de la région d'Argenta qui ont beaucoup compté pour moi, qui m'ont accueilli vraiment comme si j'avais fait partie de leur famille, et qui m'ont beaucoup appris sur ce que j'ai appelé les réalités premières, c'est-à-dire celles de la terre.
Merci beaucoup, Jean-Yves Lerichesse. Je vous propose maintenant d'accueillir dans notre studio Brassens et Aragon.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir des armées incertaines. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie de Jean-Yves Lorichesse pour son ouvrage Le destin d'un poète, paru en février 2025 aux éditions Le Temps qu'il fait. Jean-Yves Lorichesse, c'est vous qui avez invité Brassens et Aragon, vous pouvez nous expliquer?
Oui, alors effectivement, bon, c'est lié au livre dont nous allons parler, que vous avez déjà présenté, Le destin d'un poète. Parce que c'est une chanson que mon père, qui est au cœur de ce livre, aimait beaucoup. Il aimait beaucoup, d'abord, il aimait bien beaucoup, et ma mère aussi, Georges Brassens, mais particulièrement cette chanson avec ce texte d'Aragon, et pour des raisons multiples, mais en réécoutant cette chanson, on voit qu'il y est... Bon, c'était la même génération, hein, et donc ils avaient vécu un peu les mêmes choses, en particulier ils avaient vécu la débâcle de mai 1940, l'effondrement de la France face à l'Allemagne dans cette année terrible, et donc les paroles qui évoquent ces soldats défaits, etc., le touchaient particulièrement au cœur, et puis plus largement quand même cette philosophie quand même assez mélancolique, hein, de la chanson. Il n'y a pas d'amour heureux, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Je crois que c'est quelque chose qui lui parlait, qui formulait de manière très très belle, quelque chose qu'il ressentait. Non pas qu'il ait été quelqu'un de triste, ni de... C'était au contraire quelqu'un d'assez gai, mais qui avait eu dans sa vie des épreuves assez nombreuses, qui les avait surmontées, mais dans lesquelles il restait, je pense, chez qui il restait... ce fond de méditation quand même un peu mélancolique sur la vie. Et c'est ce que cette belle chanson exprimait pour lui, à la fois grâce à Aragon et grâce à l'extraordinaire diction et à la mélodie de Brassens.
Jean-Yves Lorichesse, nous avons parcouru, donné un petit aperçu certainement trop court et incomplet de votre œuvre aux auditeurs. J'ai trouvé quelqu'un qui a trouvé, je trouve, une très bonne formule pour donner une idée de votre œuvre. C'est Jérôme Garcin, qui parle de « À la recherche de votre temps perdu » et qui, je cite, et qui écrit donc, qu'il trouve enfin sa voie à la cinquantaine, celle du passé réinventé et de la filiation exaltée. Et de rajouter... J'ai bien aimé la petite formule. Style extérieur de Lorichesse, un style et une émotion d'une même et rigoureuse délicatesse. Est-ce que c'est cette affirmation, cette appréciation vous convient?
Ah oui, là j'ai été très touché par ce qu'a écrit Jérôme Garcin sur plusieurs de mes livres, et particulièrement sur ses livres en relation avec la mémoire familiale, avec le passé, parce que je crois que c'est quelque chose, on le sait par ses propres livres, ses propres romans, on sait à quel point c'est quelque chose qui compte pour lui. Donc oui, je crois qu'il a très bien compris, je crois, ce que j'essayais de faire. Oui. Donc ça m'a beaucoup touché, oui.
Nous allons revenir donc à votre ouvrage. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la genèse de cet ouvrage et la responsabilité de l'Armoire basque?
Voilà, l'Armoire basque qui effectivement est l'un des sous-titres des titres de partie de ce roman. Eh bien, effectivement, comme je le disais, mon père m'avait fait lire de la poésie. Il m'avait dit un jour aussi, j'ai essayé d'écrire un roman, mais en fait, je n'en étais pas content, je l'ai détruit. Et ça m'avait un peu désolé, mais je m'étais dit, bon, c'était, après tout, si le roman ne lui plaisait pas, c'était normal. Et puis, donc, mon père est décédé il y a une quinzaine d'années, et puis ma mère en 2020. Et donc, il a fallu à ce moment-là, effectivement, voilà, beaucoup de personnes le vivent, s'occuper d'une maison dans laquelle ils avaient vécu pendant des décennies, explorer, voilà. Et donc j'ai découvert dans une armoire, effectivement, qui était de ce style qu'on appelait basque dans les années 50, avec une armoire de bois, avec des sculptures un peu en cercle concentrique, Qui était donc dans le bureau de mon père à Talence, dans la banlieue de Bordelaise, après avoir été dans mon enfance à Guéret, donc dans l'appartement que mes parents occupaient, donc un meuble que je connaissais bien. J'y ai découvert, avec beaucoup d'étonnement, effectivement, une chemise contenant plusieurs tapuscrits, hein, donc vraiment manuscrits tapés à la machine, et en particulier donc un roman complet intitulé La Marche à l'étoile. Et j'ai compris que ce roman-là était celui dont il m'avait parlé, mais qu'il n'avait pas détruit, et que donc s'il ne l'avait pas détruit, c'est bien que quelque part il savait, et sans doute il souhaitait aussi qu'un jour je le lise, parce que nous avions une très grande proximité autour de la littérature. Il était très âgé, mais il a quand même connu la publication de mon tout premier roman, Place-Monge, qui en plus traitait de l'histoire de ses propres parents. Par rapport à ce manuscrit que je découvrais, je sais que le fait que je publie un premier roman l'avait beaucoup touché, et lui avait apporté beaucoup de satisfaction, de joie. Enfin, il en avait été très heureux pour moi. Voilà, que faire de ce tapuscrit. Alors, j'ai commencé par le lire et j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé que c'était un roman qui était bien construit, qui était très vivant, avec des personnages forts. Et puis que c'était un roman dans lequel il avait mis aussi beaucoup d'éléments autobiographiques, c'est-à-dire un héros qui est un jeune corrézien, qui veut être poète, qui monte à Paris, qui à Paris est mêlé aux événements politiques des années du Front Populaire, puis qui va vivre la guerre, la captivité. Alors tout ça, c'était des éléments autobiographiques, mais superposé à ça, ou mélangé à ça, une intrigue très romanesque, une intrigue amoureuse, et donc autour de ce personnage, Yves Chenevière et de Suzanne, une intrigue très dramatique, un amour qui va se heurter à l'histoire, et puis aussi l'histoire d'une vocation de poète, mais d'une vocation de poète qui, elle, va aboutir.
Alors, lorsque vous avez publié votre premier roman, vous dites que votre père a été touché. Vous avez une explication sur le fait que, malgré cette publication, il ne vous ait pas parlé de son roman à lui, finalement, pour...
Oui, alors je crois que ça s'explique... je pense que de toute façon, ce roman, effectivement, il l'avait vraiment écarté de son... Et en plus, dans ces dernières années, mon père était quand même très, très fatigué, très diminué. Donc, nous échangions moins sur... si ce n'est sous la forme de... Voilà, je lui lisais des fois des poèmes, des choses comme ça. Quand le roman est paru, c'était quand même en 2008, il est décédé en 2009. Vous voyez, c'était vraiment malheureusement, je veux dire heureusement, il a vu ce roman, je crois qu'il en a été heureux, mais c'était un peu tard pour que nous puissions pleinement approfondir la conversation. Et c'est peut-être justement, d'ailleurs, vous m'y faites penser, une des raisons d'être de ce livre-là, Le destin d'un poète, c'est de reprendre avec lui cette conversation autour de la création littéraire, finalement, parce que là, cette fois, maintenant que j'ai lu ce roman, je peux en quelque sorte dialoguer avec lui, alors évidemment par-dessus les rives, d'une rive à l'autre du temps.
Et au sujet du livre de votre père, vous dites que vous n'avez été ni déçu ni ébloui, oui, et que c'est peut-être pour cette raison que vous avez voulu faire ce livre avec lui.
Voilà, c'est ça. Moi, je suis spécialiste de littérature, donc j'ai beaucoup travaillé sur les grands auteurs. J'ai beaucoup fait de la recherche sur des auteurs, justement sur Claude Simon, sur Giono, qui ont écrit dans ces mêmes années 50, 60. Enfin, Giono a continué à écrire, Simon a commencé à écrire. Mais voilà, donc en lisant ce roman de mon père, à la fois je le lis comme le roman de mon père, donc je suis absolument ému, touché, et j'ai envie d'aimer ce roman, et effectivement ce roman m'intéresse, mais en même temps aussi je ne peux pas m'empêcher, en tout cas la première fois où je le lis, c'était aussi de le lire en fonction de ce que je sais de l'évolution de la littérature. Donc je sens bien que ce roman roman est aussi de son époque, il est un peu daté, que peut-être à certains moments, j'ai le sentiment, je le dis dans le livre, que c'est peut-être plus un roman écrit comme ce qu'on pouvait écrire avant la Seconde Guerre mondiale que dans les années 50, où la littérature se renouvelait beaucoup. C'est pour ça que je ne peux pas dire que je suis ébloui, mais je ne suis pas non plus déçu. Ce roman me plaît, m'intéresse, et à la fois parce qu'il est écrit évidemment par mon père, c'est une raison évidemment importante, mais aussi en tant que texte. Donc c'est cette nuance-là que j'ai essayé de... Et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être la raison d'être de ce livre. J'ai essayé d'élucider un petit peu mon rapport à ce texte. Voilà.
Alors, vous décidez donc de faire une création à l'aide de son texte. Est-ce que vous avez eu un moment la tentation de dire je vais publier son texte, rien que son texte?
Oui, j'ai pensé évidemment à cela, mais honnêtement, et ça m'a été confirmé par d'autres personnes, je crois que c'est un texte qui n'est pas publiable de manière brute aujourd'hui, c'est-à-dire comme un texte qui serait un texte écrit aujourd'hui parce qu'il est de son époque, et comme en même temps c'est aussi, ce n'est pas le texte de quelqu'un qui aurait déjà de son temps eu une certaine reconnaissance, ou en tout cas voilà, qui aurait pu être un peu connu et dont on retrouve un manuscrit inédit, et là on le publie parce que l'auteur est déjà connu. Donc la possibilité éditoriale de publier ce texte tel quel me paraissait à peu près nulle. Et donc c'est pour ça que je me demandais vraiment quoi faire de ce texte, parce qu'en même temps, il me semblait que ce texte, il ne fallait pas qu'il retourne dans un tiroir ou dans une armoire basque qui, en plus, a disparu je ne sais où. Voilà, donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire, quelque chose de plus personnel, qui serait non pas dire, ce texte n'a pas eu de chance, il aurait pu être publié dans les années 50, et je pense qu'il aurait pu l'être dans les années 50, donc on va réparer ça en le publiant, il aurait déjà fallu trouver l'éditeur qui le fasse. Mais il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de plus riche à faire, qui était de prendre ce texte comme objet d'un dialogue, d'une conversation, d'un prolongement de conversation, comme j'en ai eu tellement avec lui, avec mon père. Et d'où l'idée qui m'est venue de manière un peu comme tout d'un coup un éclair. Et si j'écrivais un peu le roman de ce roman... Après, il a fallu trouver la forme, effectivement, ce qui n'était pas évident, et donc faire ce travail dont vous venez de parler, de découpage, de montage, et puis de contrepoint, puisque je fais effectivement, j'ai sélectionné donc une série d'extraits relativement longs, qui donnent vraiment toute sa mesure à l'art du récit et à l'intérêt de cette histoire, qui, en même temps, dans les entre les extraits, me laisse à moi un espace d'expression qui n'est pas du tout un travail critique. Alors, ce n'est pas du tout le même type d'écriture ni le même type de lecture que je ferais sur un auteur sur lequel je travaille en tant que chercheur, que critique. Mais c'est vraiment une conversation, c'est-à-dire des échos que suscitent ces extraits, ce que raconte mon père, aussi bien par rapport à des choses qu'il m'a racontées de sa vie. Donc je mets en relation certains aspects autobiographiques, je les élucide et j'évoque donc certains aspects de sa vie, et puis aussi des références littéraires, et puis aussi des effets de lecture que cela a sur moi, etc. Donc c'est un peu un mélange de tout ça.
Jean-Yves Lorichesse, je vous propose maintenant de recevoir votre second invité, Frédéric Chopin. Thank you.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Le destin d'un poète, paru en février 2025 aux éditions Le Temps qu'il fait, son auteur Jean-Yves Lorichès, que nous recevons aujourd'hui à Parole d'auteur. Deuxième invité, j'allais dire même troisième invité, Chopin.
Oui, ce magnifique prélude. Alors là, c'est peut-être... Mon père aimait bien la musique classique, mais c'est surtout ma mère qui était très... Elle était pianiste amateur, mais elle avait un bon niveau de piano, et puis elle aimait beaucoup la musique classique. Donc on en écoutait beaucoup chez moi, mon père appréciait aussi. Mais c'est vrai que j'ai une pensée pour elle, parce qu'elle aimait particulièrement Chopin. Il est un peu question d'elle, d'ailleurs, bien sûr, dans ce roman, Le destin d'un poète. Et puis voilà, cette mélancolie. Alors c'est vrai que cette mélancolie, elle était déjà dans la chanson de Brassens. On la retrouve ici... dans une esthétique différente, mais parce que je crois que ce roman, il y a quelque chose de mélancolique dans l'histoire de ce manuscrit quand même, qui est quand même malgré tout l'échec d'une vocation d'écrivain. C'est un fait. Mon père, je le dis un petit peu à un moment, mais j'ai aussi trouvé une pièce de théâtre qui est la transposition de ce roman. J'ai trouvé aussi des nouvelles qui sont d'ailleurs souvent des nouvelles qui sont suscitées par des souvenirs de captivité ou de guerre. Donc il y a vraiment eu chez mon père un désir très fort avant-guerre et après-guerre d'être écrivain, jusque dans ces années 50, qui s'est heurté au fait que le manuscrit n'a pas été retenu. Ce que j'interprète de la manière suivante, hein, beaucoup plus qu'une question de qualité, parce que je crois vraiment que ce roman méritait d'être publié, mais je crois que dans ce roman, la guerre a une place importante. Hein. Mon père en sortait, ça faisait moins de 10 ans que la guerre et la captivité étaient finies pour lui, et je pense que le public et donc les éditeurs avaient envie de passer à autre chose. Donc il y a quelques grands livres sur la captivité, la guerre, juste après 1945. Hein. Je pense au Caporal épinglé, par exemple, de Perret ou d'autres, que mon père avait lu d'ailleurs. Mais ça, c'est avant 1950. Et mon père, il écrit et il envoie son manuscrit, je crois, en 54 ou 55. Et je crois que là, et vous savez, les éditeurs sont quand même très sensibles à ça. Et je pense que c'est une raison. Donc voilà, une forme de mélancolie quand même d'un échec. Et puis l'histoire qui est racontée, dans laquelle on va revenir, l'histoire qui est racontée dans ce roman est aussi une histoire tout de même assez tragique. Donc voilà pourquoi cette émotion donc du prélude de Chopin.
Le rendez-vous n'a pas eu lieu finalement.
Le rendez-vous, c'est-à-dire
le rendez-vous de votre père avec la notoriété et le succès littéraire.
Non.
Voilà. Malgré des sponsors ou des personnes importantes qui ont essayé de l'aider.
Oui, alors avant-guerre, il a envoyé des poèmes, hein, comme le font beaucoup de jeunes poètes, à de grands auteurs. Il a envoyé à Gide, il a envoyé à Duhamel, et donc j'ai retrouvé effectivement des lettres. Il a envoyé à Valéry, des lettres. La poésie qu'il écrivait à l'époque était une belle poésie, beaucoup en alexandrin, un peu, parfois aussi en prose, post-baudelairienne, je dirais, hein, très, très sensuelle, très sensualité, sensibilité à la nature. C'était, mais qui, comme le lui dit Gide, vos poèmes sont très beaux, mais leur seul défaut, c'est qu'ils font penser à d'autres. Donc c'était un encouragement à essayer de trouver une voie davantage personnelle. Mais là, il était à l'époque un jeune homme. Alors après, quand il écrit dans les années 50, c'est autre chose. C'est un homme d'âge mûr, il a la quarantaine. Et là, effectivement, je pense qu'il écrit ce qu'il peut vraiment écrire. Alors effectivement, ça ne marche pas. Il n'avait pas tant d'appui que ça, en fait. Il connaissait indirectement par quelqu'un du village de Saint-Chamand, dans lequel donc il avait passé son enfance et où avait vécu pendant la guerre pendant quelques temps André Malraux. Donc il avait le contact avec André Malraux sans l'avoir jamais rencontré, et c'est donc cet ami qui a dû effectivement lui suggérer d'envoyer son manuscrit à André Malraux, qui a manifestement donc transmis le manuscrit à Pollan, à la NRF, la pièce de théâtre pareil, à Héberto, bon, mais enfin c'était pas non plus un appui si considérable que ça, c'était plutôt une politesse, voilà. Bon, et donc il était quand même, il vivait dans la Creuse, à Guéret, c'était quand même très loin de tout, très loin du milieu parisien, du milieu éditorial, et je pense que voilà, ça a aussi certainement handicapé sa vocation.
Alors Jean-Yves Le Richesse, les auditeurs vont penser que nous créons à dessein le suspense. Est-ce que vous pourriez rapidement nous parler de la trame du roman de votre père?
Oui, donc voilà, c'est l'histoire d'un jeune Corrézien qui s'appelle Yves Chenevière, qui est un fils de notaire. Et son père, notaire, est un notaire à l'ancienne, un peu raide, hein, un peu autoritaire, et il lui paraît évident que son fils doit reprendre l'étude. Donc il a fait des études de droit, et maintenant il est clerc chez son propre père, et sa voie est tracée. Et lui, il voit les choses différemment, il écrit des vers, il veut être poète, il a cette vocation-là. Et donc ce qui le heurte constamment à son père, et puis un jour... Où il envoie des poèmes, comme l'a fait mon père, hein, à des grands poètes, il reçoit des encouragements, etc. Et puis un jour, il décide de partir partir secrètement. Enfin, il part pour Paris, et là, il va pour tenter la grande aventure. Et là, il va travailler pour vivre dans une école privée. Il va être surveillant, puis donner des cours, etc. Voilà, donc c'est le point de départ. Et puis ensuite, il va faire une rencontre amoureuse très forte. Donc, voilà, il ne faut pas spoiler le sujet.
Il va faire des rencontres, il va y avoir beaucoup de rebondissements.
Et il va être mêlé à des événements historiques, donc en particulier, évidemment, la guerre.
Voilà, et c'est chemin faisant, si on peut dire. On s'aperçoit que le déroulé de l'histoire nous conduit vers un drame, et que le roman lui-même est construit comme un drame, le drame de l'amour-passion qui se heurte au réel, le thème romantique de la mal mariée de Stendhal, beaucoup de mise en scène, d'entrée en scène rocambolesque, le ressort dramatique classique, deux hommes, une femme. Mais au fond, malgré les événements, malgré des rebondissements, malgré les obstacles, sa volonté de se consacrer à la poésie, sa volonté d'auteur, passe par toutes les épreuves et arrive à les surmonter.
Oui, c'est paradoxalement un roman alors qui est sombre à bien des égards, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de drames, hein, puis sur fond de tragédies historiques, mais de drames individuels aussi. Mais au bout du compte, c'est quand même un roman qui, du point de vue effectivement de cette vocation posée au départ, ce destin d'un poète, c'est un destin qui s'accomplit. Et c'est un paradoxe assez troublant, parce que c'est finalement... le livre qui raconte l'accomplissement d'un destin d'écrivain, que ce livre, en même temps, ce manuscrit ne va pas permettre en ce qui concerne son auteur, puisqu'il ne sera pas publié. Donc il y a là une espèce d'ironie de l'histoire, un peu amère quand même, qui explique peut-être aussi que mon père, finalement, ait quand même vraiment mis ce manuscrit de côté, et puis, quelque part, c'était quand même très lié pour lui à un échec. Alors, dont il n'avait pas, d'ailleurs, d'amertume, je tiens à le souligner. C'était quelqu'un qui a toujours aimé la littérature, qui a toujours beaucoup lu et relu les grands auteurs, qui s'est intéressé aussi à la littérature d'aujourd'hui, qui s'est intéressé à une littérature très moderne. Parce qu'effectivement, son roman a un côté romantique, romanesque, peut-être dans le prolongement du 19e siècle, mais en même temps, mon père va s'intéresser, se passionner dans les années, fin des années 50 et années 60 pour le nouveau roman, pour Claude Simon. C'est lui qui m'a fait découvrir Claude Simon. Il était très ouvert aussi sur la modernité. Donc ça, cet échec, quand même, effectivement, il en a certainement été malheureux, mais ça ne l'a pas rendu amer. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très beau parce que, et quand moi-même j'ai publié ce texte, il en a été heureux alors que ce premier roman, alors qu'il aurait pu au contraire en être presque jaloux, mais c'était pas du tout son état d'esprit.
Alors en parallèle à son texte, il y a votre texte. Alors votre texte, en plus je précise pour les auditeurs que les deux textes ne sont pas imprimés dans la même police de caractère. Et l'impression que j'ai eue en lisant ce livre, c'est que votre texte, c'était un petit peu la voix off du livre, qui faisait des commentaires, qui apportait des explications, et puis qui, des fois, tenait à faire des rectifications, à rebondir. Est-ce que cette manière de faire vous est venue rapidement ?
Non, ça a été vraiment un travail et un retravail, parce que j'ai repris plusieurs fois l'ensemble du livre une fois qu'il a été achevé. Au début, je savais quand même pas tellement où j'allais, hein. C'est pour ça que je commence en fait à écrire en racontant un peu les circonstances finalement qu'on a évoquées tout à l'heure rapidement, dans lesquelles j'ai découvert ce manuscrit, et puis à évoquer aussi, à reconstituer une période qui précède immédiatement ma naissance, qui est la période effectivement où mes parents s'installent comme jeunes professeurs à Guéret, où mon père va donc écrire ce roman. Tout ça, je le mets en place comme une espèce de préparation et qui me permet à moi aussi d'entrer dans l'écriture. Je ne pouvais pas entrer directement dans l'écriture par le roman de mon père. Et ensuite, là, à un moment, je suis au pied du mur. Là, alors, qu'est-ce que je fais avec ces manuscrits ? Et c'est là qu'effectivement, je fais ce découpage et que commence l'écriture de ce qu'il doit y avoir entre les extraits de mon père, qui sont effectivement, qui seront, mais dès le début j'ai pensé à ça, donc imprimés dans un caractère imitant le caractère des machines à écrire, hein, puisque c'est finalement l'état dans lequel j'ai lu le texte, et puis je trouve que c'est une belle police de caractère, cette police, enfin, avec un côté un petit peu désuet aussi, mais j'aime bien ce côté-là. Voilà.
Et je dois dire que le lecteur est bien embarqué dans la forme et se laisse conduire. Juste un dernier mot. Je voulais vous poser la question. Dans le texte, vous arrêtez plusieurs fois votre père et vous-même sur l'éternelle question du plan quand on écrit, l'éternelle question de la création. Et j'ai bien aimé la formule que vous employez. La création est un combat qui engage le corps autant que l'esprit, qui menace toujours d'être perdu et auquel il faut tout sacrifier. Ça a toujours été vrai pour vous ?
Alors là, c'est en fait plutôt... C'est pas tellement finalement ce que je ressens moi, c'est plutôt ce que mon père écrit. Alors en fait, dans les années 30, hein, 35-36, il avait fait un premier projet de roman. Et dans ce premier projet de roman, donc, dont il ne subsistait que des notes d'ailleurs, il y avait effectivement des réflexions sur l'écriture. Et c'est plutôt lui qui voyait les choses comme ça. Il avait toujours une espèce de dimension très presque physique de l'écriture, comme quelque chose, comme un combat. Moi, je ne le ressens pas trop comme ça. J'ai plutôt une relation assez apaisée, assez paisible à l'écriture. Mais après, celui qui écrivait cela, c'était un jeune homme de 25 ans, voilà, et moi j'écris plutôt à partir de la cinquantaine, donc on n'a pas le même rapport à l'écriture. Voilà.
C'est logique, c'est normal. Merci beaucoup Jean-Yves Le Richesse pour votre roman Le Destin d'un Poète, paru en 2025 aux éditions Le Temps qu'il fait. Merci aux éditeurs pour leur fidélité et je vous conseille très vivement de rentrer dans ce roman très original et qui vous fera découvrir beaucoup d'aspects de la relation père-fils à distance et en décalé. Merci à Christophe Aubry à la technique. Au revoir à tous et bonne lecture.